VOA Afrique, le monde aujourd'hui. À Washington.
Le monde aujourd'hui, édition du lundi 21 juin 2021. Jean-Roger Dion à ce micro. Bonsoir à tous. À la une de nos informations. Les Éthiopiens ont voté aujourd'hui pour des législatives et des régionales, mais le scrutin n'a pas eu lieu partout. Premier tour des régionales en France, mauvaise performance pour les partis du président Emmanuel Macron et de l'extrême droite. Ce scrutin est considéré comme un test avant la présidentielle de 2022. Iran, le nouveau président Ibrahim Raisi affirme que sa politique étrangère ne sera pas limitée à la relance de l'accord nucléaire. Nous sommes le 21 juin aujourd'hui, une date qui rime avec la fête de la musique. Nous irons au Burkina Faso. À suivre également dans cette session d'information, la Minute Éco et les sports, mais tout d'abord, le journal. Élections législatives et régionales en Éthiopie ce lundi. Le scrutin mobilise 40 partis et 9500 candidats. Le parti de la prospérité du premier ministre Abiy Ahmed est le favori pour remporter une majorité et former un gouvernement. Les opérations de dépouillement débuteront dans la soirée. Nathalie Barge.
Les files d'attente devant les bureaux de vote étaient longues à Addis Abeba comme à Bahir Dar, capitale de la région Amhara. Après avoir voté à Addis Abeba, la présidente Saleh Worksoudé a dit espérer que ce scrutin ouvrira un nouveau chapitre qui rassemblera tous les Éthiopiens pour construire le pays ensemble. 38 millions d'électeurs sont enregistrés, mais le vote n'a pas lieu dans un cinquième des 547 circonscriptions. La majorité de ces zones touchées par des violences intercommunautaires voteront le 6 septembre. Aucune date n'a été fixée pour les 38 circonscriptions du Tigré où le gouvernement mène une opération militaire depuis novembre. Prévues en août 2020, les élections ont été reportées à deux reprises en raison de la pandémie et de difficultés logistiques. En Éthiopie, les députés élisent le chef du gouvernement ainsi que le président, dont la position est honorifique. Ce sont les premières législatives depuis l'arrivée au pouvoir du premier ministre Abiy Ahmed en 2018.
De nombreux pays occidentaux ont fait part aujourd'hui de leurs grandes préoccupations face aux violations persistantes des droits humains en Érythrée, ainsi que par celles commises par l'armée érythréenne dans la région éthiopienne du Tigré. Les diplomates se sont exprimés à l'occasion d'un débat ordinaire de la 47e session du Conseil des droits de l'homme, CDH, de l'ONU qui se tient en ligne jusqu'au 13 juillet. Plusieurs pays ont plaidé en faveur du renouvellement du mandat annuel du rapporteur spécial sur l'Érythrée, une décision qui sera prise par les 47 États membres du CDH le 12 ou 13 juillet prochain. Une voiture piégée a attaqué aujourd'hui un véhicule de Barkhane à Gossi, dans le centre du Mali. L'attaque a fait des blessés parmi les soldats de la force française, mais aussi des civils, a indiqué l'état-major français. Tous ont été évacués vers l'hôpital militaire de Gao. Un responsable militaire malien et un élu local ont fait état de 3 soldats français blessés, évacués par hélicoptère vers la base de Barkhane à Gao. Cette attaque intervient au moment où la France se prépare à mettre fin à l'opération Barkhane. Au Nigeria, un inspecteur de police a ouvert le feu dimanche sur des habitants d'un quartier résidentiel à Enugu, dans le sud-est du pays, tuant 5 civils et en blessant 4 autres, a annoncé aujourd'hui la police locale. Les victimes ont été emmenées à l'hôpital et 5 personnes dont les blessures étaient graves sont finalement décédées, a indiqué le porte-parole de la police, Daniel Ndoukoué, dans un communiqué. L'inspecteur de police a été arrêté et une enquête a été ouverte. Les motifs de cette attaque sont pour l'heure inconnus, précise le communiqué. Au Niger, près de 6000 personnes qui avaient fui en 2015 des attaques djihadistes ont été reconduites à Baroua, leur localité d'origine située dans la région de Diffa, dans le sud-est du pays. C'est la toute première opération de retour de déplacés dans leur localité d'origine. Eric Manirakiza nous en dit plus.
Il s'agit d'un retour volontaire. Selon Yahya Godi, secrétaire général du gouvernorat de Diffa, 5935 personnes ont déjà regagné Baroua, une localité située près d'Obosso, à proximité du lac Tchad. Des hommes, des femmes et des enfants sont arrivés sous haute escorte sécuritaire d'une vingtaine de camions bourrés de vivres, de réserves d'eau, de lits, de matériaux pour confectionner des abris. Les dispositions sont prises par les forces de défense et de sécurité pour renforcer quotidiennement la protection des personnes de retour, a assuré Issa Lemine, gouverneur de la région de Diffa. C'est la toute première opération de retour de déplacés dans leur localité d'origine et qui va concerner 18 autres villages. À terme, entre 8 000 et 10 000 personnes doivent retourner à Baroua. Selon les Nations Unies, la région de Diffa abrite quelque 300 000 réfugiés nigérians et déplacés qui ont fui les exactions de Boko Haram.
L'Afrique du Sud va accueillir un centre de transfert de technologies pour les vaccins contre le coronavirus afin d'intensifier le savoir-faire en matière de production dans ce pays le plus touché d'Afrique par la pandémie, a déclaré aujourd'hui le président sud-africain Cyril Ramaphosa. Avec l'Inde, l'Afrique du Sud a fait pression pour une renonciation temporaire au droit de propriété intellectuelle des vaccins afin que chaque pays puisse produire des doses. Lors d'une visite à Pretoria fin mai, le président français Emmanuel Macron a estimé que les brevets ne doivent être en rien un frein, se disant favorable à demander une levée temporaire des droits, même si la priorité devait rester le transfert de technologie. La justice égyptienne a condamné à 6 et 10 ans de prison deux influenceuses pour traite d'êtres humains et de débauche après la diffusion de vidéos publiées sur les applications TikTok et Likee. Annie Mossam, qui est en fuite, sera réjugée si elle se présente au tribunal, sinon sa condamnation sera rendue définitive. Pour Mawada Al-Hadam, Met Soka, son avocat, a évoqué un pourvoi en cassation en estimant que le jugement enfreint la loi.
VOA Afrique, à Washington, vous êtes à l'écoute du monde aujourd'hui.
Trois jours après son élection à la présidence en Iran, le nouveau président Ibrahim Raisi a donné le ton aujourd'hui en déclarant qu'il n'autoriserait pas des négociations pour le plaisir sur le dossier nucléaire. Il a également déclaré qu'il refuse une rencontre avec le président américain Joe Biden. Le point avec Rosine Mounezero.
À l'occasion de sa première conférence de presse après sa victoire, le nouveau président iranien Ibrahim Raisi, répondant à la question lui demandant s'il avait l'intention de rencontrer M. Biden, si les discussions de Vienne permettraient d'alléger les sanctions, M. Raisi a répondu sèchement non. Il a affirmé que l'Iran ne va pas faire des négociations pour le plaisir de négocier. Toute rencontre doit produire des résultats pour la nation iranienne, a-t-il affirmé. Un nouveau cycle de négociations s'est achevé dimanche sur une note positive à Vienne. La conclusion d'un compromis pour relancer l'accord avant la prise de fonction du président Raisi reste une possibilité. M. Raisi a en revanche affirmé qu'il n'avait pas d'obstacle à la reprise des relations diplomatiques avec l'Arabie Saoudite, rompues depuis 2016. Le nouveau président va entrer en fonction en août, au moment où le pays subit une grave crise économique et sociale à cause des sanctions américaines et des effets de la pandémie.
Le Hamas a dénoncé aujourd'hui les obstacles mis par Israël à l'apaisement de la crise humanitaire dans la bande de Gaza à la suite de la dernière guerre avec l'État hébreu, après une réunion non concluante selon le mouvement palestinien avec une délégation onusienne. L'émissaire de l'ONU pour le Proche-Orient, Tor Wennesland, est arrivé aujourd'hui avec son équipe de l'enclave palestinienne pour rencontrer des dirigeants du Hamas un mois après l'entrée en vigueur d'un cessez-le-feu entre le mouvement islamiste et Israël. Syrie, au moins 9 personnes, dont 4 civils, ont été tuées aujourd'hui dans des tirs d'artillerie du régime sur le nord-ouest, selon l'Observatoire syrien des droits de l'homme, malgré un cessez-le-feu en vigueur depuis plus d'un an. Les bombardements ont également fait 13 blessés. Depuis début juin, plusieurs zones de la province d'Idlib sont le théâtre de bombardements sporadiques des forces syriennes, ainsi que d'échanges de tirs avec les groupes rebelles et djihadistes qui dominent la région. Le premier tour des élections régionales et départementales a eu lieu hier en France. Les partis du président Emmanuel Macron et de l'extrême droite, Marine Le Pen, ont fait de très mauvaises performances. Claire Morin-Gibou.
Au lendemain de ce premier tour, l'addition est salée pour La République En Marche, le parti présidentiel, ainsi que pour le Rassemblement National de Marine Le Pen. Le parti du président Emmanuel Macron visait 15% des voix, mais a plafonné autour de 10 ou 11%. Et les ministres candidats ont échoué. La plupart n'arrivent même pas au second tour. Le Rassemblement national de l'extrême droite est en chute de 9 points. Pour le journal Le Figaro, c'est le retour en force du clivage droite-gauche avec une très bonne performance des Républicains, la droite traditionnelle et du Parti socialiste à gauche. Ce scrutin est le dernier avant le grand rendez-vous de la présidentielle de 2022, mais le ministre de l'Intérieur, Gérald Darmanin, ne veut pas tirer de conclusions hâtives, a-t-il déclaré sur France 2. Et avec 70% d'abstention, tout peut arriver au second tour dimanche prochain.
Madrid va proposer demain mardi de gracier les 9 dirigeants indépendantistes catalans emprisonnés depuis qu'ils ont été condamnés pour leur implication dans le référendum d'autodétermination d'octobre 2017, a annoncé aujourd'hui le président du gouvernement espagnol, Pedro Sanchez. Avec cette démarche, le gouvernement espagnol espère améliorer ses relations avec la Catalogne et relancer le dialogue entre Madrid et Barcelone. À présent, la Minute Écho avec Nathalie Barge.
Les dirigeants de la CEDEAO, réunis samedi à Accra, ont programmé l'entrée en vigueur de la nouvelle monnaie unique pour 2027. La crise sanitaire a retardé le processus de mise en œuvre de l'écho. Il reprendra l'an prochain avec un délai de 5 ans afin de préparer les pays d'Afrique de l'Ouest à la transition et de réajuster le pacte de convergence monétaire. Le PNB de la Bank of Africa Niger a enregistré une progression de 7,55% au premier trimestre 2021 par rapport à la même période l'an dernier, selon les dirigeants de la BOA. Il s'est établi à 5781 milliards de francs CFA contre 5375 milliards. Le résultat brut d'exploitation est en hausse de 16,50%, passant de 2500 milliards à 2913 milliards de francs CFA. Dans le KwaZulu-Natal en Afrique du Sud, des pierres déterrées la semaine dernière sur le flanc d'une colline à Kouati par des milliers de personnes croyant qu'il s'agissait de diamants sont en réalité du quartz, indiquent des analyses. L'afflux de Sud-Africains à la recherche de diamants a mis en lumière les défis socio-économiques auxquels sont confrontés les gens dans la région, a souligné le gouvernement local, ajoutant vouloir répondre aux problèmes soulevés, dont l'accès à l'eau.
Place maintenant au sport avec Yacouba Ouedraogo.
Bonsoir à tous. Le tribunal arbitral du sport a réduit à 5 ans la suspension pour corruption de l'ancien entraîneur de l'équipe nationale du Nigeria, Samson Siasia, dans une affaire de rencontre arrangée. La juridiction a estimé disproportionnée la suspension à vie infligée en avril 2019 par la FIFA au technicien de 53 ans, accusé d'avoir accepté en 2010 de se joindre à une tentative de manipulation de match. Le TAS a aussi annulé l'amende de 50 000 francs suisses prononcée par la FIFA. Sa suspension prendra donc fin en 2024. Éphémère sélectionneur du Nigeria, entre 2010 et 2011, l'ancien attaquant a disputé le mondial 1994 aux États-Unis. Samson Siasia a été épinglé suite à des investigations menées autour des manipulations de matchs en lien avec des paris sportifs selon la FIFA. Des nouvelles de l'Euro 2021 qui a débuté le 11 juillet et se poursuivra jusqu'au 11 juillet. Les différentes équipes effectuent leur dernière sortie dans la phase de groupe. Dans le groupe B, la Belgique, déjà qualifiée, fait face à la Finlande et le Danemark joue la Russie ce soir. Hier, dans le groupe A, l'Italie s'est offert un troisième succès de rang aux dépens du pays des Galles, 1-0. Les Italiens bouclent la phase de poule en tête du groupe avec 9 points. De leur côté, les Gallois avec 4 unités accrochent la deuxième place et rejoignent les huitièmes de finale devant la Suisse, vainqueur de la Turquie, 3 buts à 1. NBA, Atlanta a battu Philadelphie et s'est qualifié pour la finale de conférence Est, où il affrontera Milwaukee, Phoenix ayant débuté par une victoire dans celle de l'Ouest contre les Clippers. Bagassi Koura.
Oui, comme Milwaukee samedi à Brooklyn, Atlanta a réussi une grosse performance en remportant le sixième match décisif sur le parquet des Sixers, 103-96, au terme d'une nouvelle grosse bataille. La star camerounaise des Sixers, Joel Embiid, s'est démenée en 20 pour inverser la situation en marquant 11 de ses 31 points dans l'ultime carte. Atlanta a fait preuve de maîtrise pour renouer avec une finale de conférence. Atlanta a fait preuve de maîtrise pour renouer avec une finale de conférence 6 ans après la précédente. À l'Ouest, les matchs de la finale de la conférence ont commencé la nuit dernière. Les Suns de Phoenix sont venus à bout des Clippers, 120 à 114, en l'absence de Chris Paul, tenu de s'isoler selon le protocole COVID-19 de la Ligue. Devin Booker a été un vrai chef d'orchestre en attaque. Il a été auteur d'un triple-double, 40 points, 11 passes décisives et 13 rebonds. Le match numéro 2 de cette finale de conférence Ouest aura lieu demain et toujours à Phoenix.
Merci, Bagassi.
Page de sport signée Yakuba Ouedraogo. Vous êtes à l'écoute du monde aujourd'hui, suivez au Afrique. Jean-Roger Guillon de retour avec vous pour les dossiers du jour. En 1989, un conflit a éclaté entre le Sénégal et la Mauritanie. À l'époque, environ 60 000 personnes ont fui de la Mauritanie vers le Sénégal et le Mali, selon l'Agence des Nations Unies pour les réfugiés. Aujourd'hui, la majorité d'entre eux vivent toujours au Sénégal, dans des conditions souvent très difficiles et ne peuvent retourner en Mauritanie. Les détails avec notre correspondant à Dakar, Seydina Bagay.
32 ans. Apatride, sans emploi ni revenu stable, sans domicile fixe et souvent hébergé dans des maisons en délabrement ou en construction, les réfugiés mauritaniens établis au Sénégal vivent au jour le jour. À Guinaouraï, dans la banlieue de Dakar, nous retrouvons quelques membres de cette communauté. Mayriba vit ici avec sa famille et pour elle, les conditions sont très précaires.
On survit difficilement au rythme de tracasseries quotidiennes pour nous les femmes. Mon mari court de gauche à droite pour trouver de quoi nourrir notre progéniture, mais ce n'est pas toujours évident car des fois nous n'avons rien à nous mettre sous la dent. L'éducation des enfants, le logement et l'emploi sont aussi des problèmes. On se fait souvent expulser de nos lieux d'habitation à cause du manque de revenus et nos enfants parviennent difficilement à étudier dans ces conditions. Nous sommes fatigués par cette situation.
Son mari, Mamadou Lamine Ba, lui emboîte le pas. Pour lui, la situation de leurs enfants est le plus difficile à vivre.
Nous, les enfants d'Adam, nous avons beaucoup de 32 ans, c'est calvaire, nous sommes.
Nous sommes des êtres humains et nous méritons de vivre dans la dignité après 32 ans de calvaire. Nos enfants se battent à l'école et à l'université pour faire partie des meilleurs, mais au final, ils ne peuvent accéder à aucune profession faute de nationalité. Leurs demandes d'intégration ne sont pas prises en compte. Mon fils est né au Sénégal, il a grandi et a étudié ici, mais il ne peut pas accéder au monde professionnel parce qu'il n'a pas de certificat de nationalité. Il est apatride, son père est apatride. Nous n'avons plus de mère. Patrie, nous n'avons rien.
Nous sommes des apatrides.
Face aux conditions de vie difficiles auxquelles ils font face au Sénégal, certains Mauritaniens ont décidé de regagner leur pays d'origine à partir de mars 2008 sous l'égide de l'Agence des Nations Unies pour les réfugiés. Un retour pas totalement réussi si l'on se fie à Abdourahmane Sy de la coordination des associations de réfugiés mauritaniens au Sénégal.
24 000 réfugiés qui sont retournés et depuis lors ils sont même revenus, devenus d'ailleurs des réfugiés. Qui n'ont pas aucune pièce d'identification, qui n'ont aucune reconnaissance, qui n'ont pas retrouvé leur terre, ni leur village, puisqu'on t'a amené jusqu'à 1 km chez toi, on te dit que tu es là aujourd'hui. Donc tu n'as plus le droit même de regagner ton village natal ou ta ville natale, alors que tu avais tout perdu. Donc il n'y avait pas ni de restriction de nationalité, ni de restriction des biens. Et la majorité parmi les 24, il y a eu 1600 qui ont retrouvé leur nationalité. Tout le reste maintenant, ils sont devenus des propres apatrides dans leur propre pays.
Après plus de 30 ans de combat et malgré des résultats mitigés, ces familles de réfugiés au Sénégal ne comptent pas baisser les bras. Ce 20 juin, journée consacrée aux réfugiés, est une nouvelle fois l'occasion pour les Mauritaniens établis au Sénégal depuis 1989, contre leur gré, de réclamer leur droit à une nationalité, de réclamer leur droit à un retour au bercail et au pire, le droit de leurs enfants à bénéficier de papiers qui leur permettent d'étudier dans de bonnes conditions. Seydina Bagay à Dakar pour VOA Afrique.
C'est VOA Afrique à Dakar au Sénégal, 24 heures sur 24.
La situation sécuritaire est inquiétante dans 4 des 10 régions du Cameroun. C'est ce qu'ont révélé les responsables de la gendarmerie et de la police lors d'une communication sur la situation sécuritaire du pays. Les régions concernées sont les deux zones anglophones, celle de l'extrême nord qui subit les attaques de Boko Haram et de l'est à cause de la situation en Centrafrique. De Yaoundé, la correspondance d'Emmanuel Julentap.
La situation sécuritaire a été largement abordée au cours de la dernière rencontre des gouverneurs de région. Il en ressort que des phénomènes tels que le banditisme, la fabrication utilisation des engins explosifs improvisés de plus en plus sophistiqués, les attaques des séparatistes, le recrutement forcé des combattants par des hommes armés et les prises d'otages avec demande de rançon sont enregistrées dans certaines parties du pays. Bernard Okalaï Bilaï est gouverneur de la région du Sud-Ouest où sévit une crise séparatiste depuis 2016.
Il y a encore quelques groupes d'individus armés qui perturbent, qui kidnappent, qui tuent, mais l'État reste et demeure présent dans tous les coins et les recoins de la région.
Le 20 juin, un tweet de l'avocat Félix Agbobala a condamné les assassinats, les crimes, les décapitations horribles à mettre à l'actif des combattants sécessionnistes et le silence de leurs leaders. L'avocat Félix Bala a dirigé en 2016 la Cameroun Anglophone Civil Society Consortium, la toute première plateforme de revendication de la cause anglophone. Pour sa part, le commandant de la 5e région militaire, le général Valère Nka, a récemment reconnu que la guerre continue à tuer les séparatistes et les soldats dans la région du Nord-Ouest. 4 éléments des forces de défense sont morts en mai dernier dans des combats. L'autre front sécuritaire au Cameroun se trouve dans la région de l'extrême nord qui fait face depuis 7 ans aux incursions de Boko Haram, avec en conséquence le déplacement de plus de 300 000 personnes, selon Human Rights Watch. Midiyawa Bakari, gouverneur de l'extrême nord.
Pour une toute première fois depuis 7 ans, nous avons eu un mois de Ramadan sans attaque kamikaze. Certes, nous avons quelques intuitions ici et là que nous qualifions de prédation. Nous pensons franchement que la situation pour le moment sécuritaire est contrôlée, ce qui nous permet de nous focaliser sur le développement.
Frontalière avec la République centrafricaine, la région de l'Est focalise également la tension sécuritaire. Depuis le début de l'année, plus de 6 000 ressortissants de la Centrafrique ont traversé la frontière, fuyant la situation post-électorale de décembre dernier. Grégoire Mvogo, gouverneur de la région de l'Est.
À la fin de l'année dernière et au début de cette année, il y a eu quelques frayeurs. Les choses sont en train de se... Ça nous permet également de mieux maîtriser la situation dans les zones frontalières camerounaises adjacentes à la Centrafrique. Bon, maintenant, il y a toujours banditisme rural, il y a toujours quelques préoccupations dans les grandes villes, mais dans l'ensemble, la situation sécuritaire est maîtrisée.
Le Cameroun va accueillir la prochaine Coupe d'Afrique des Nations de football. Le gouvernement préconise d'ores et déjà des mesures pour garantir la sécurité. Paul Atangandji, ministre de l'administration territoriale.
Les forces de défense et de sécurité vont également faire leur travail. Ils vont traquer les bandits de grand chemin, ils vont traquer les terroristes et ils seront traduits devant les instances judiciaires.
Yaoundé, Emmanuel Jumtap, VOA Afrique.
Vous écoutez VOA Afrique à Douala, au Cameroun, sur Radio Balafon, FM 90.2.
Trois jours après son élection à la présidence iranienne avec 62% des voix, Ibrahim Raisi s'est prononcé ce lundi en faveur d'une négociation sur le nucléaire. Mais cet ultra-conservateur proche de l'ayatollah Ali Khamenei a prévenu qu'il n'y aurait pas de négociation pour le plaisir de négocier et qu'il n'était pas prêt à rencontrer le président américain Joe Biden. L'élection de Raisi suscite l'incertitude sur l'avenir des négociations sur le programme nucléaire iranien. La question a été soulevée récemment lors d'une réunion entre les présidents américains et russes. Michel Quinn nous en dit plus avec le récit d'Abdourahman Dia.
L'élection d'Ibrahim Raisi, membre de l'aile dure du régime iranien, intervient quelques jours après que le président américain Joe Biden a révélé avoir discuté de l'Iran avec son homologue russe Vladimir Poutine lors de leur récent sommet à Genève.
Il est dans l'intérêt de la Russie et des États-Unis de s'assurer que l'Iran n'acquiert pas d'armes nucléaires. Nous avons convenu de travailler ensemble.
Des négociations ont été lancées en avril avec l'Iran pour réintégrer l'accord de 2015 qui imposait des limites aux activités nucléaires de l'Iran en échange d'un assouplissement des sanctions internationales contre la République islamique. L'Iran s'est retiré de ses engagements nucléaires après que l'ancien président Donald Trump a sorti les États-Unis de l'accord et réimposé les sanctions américaines à Téhéran en 2018. Washington participe à des pourparlers indirects à Vienne avec des diplomates de 5 pays agissant comme intermédiaires avec l'Iran. Le ministre iranien des Affaires étrangères a déclaré qu'un accord pourrait être conclu plus tard cette année avant l'entrée en fonction du nouveau président. La Maison-Blanche ne signale aucune percée, mais semble être prudemment optimiste quant à la direction des pourparlers. Jake Sullivan est le conseiller à la sécurité nationale du président Joe Biden.
Ce que je dirais, c'est qu'il reste du chemin à faire sur certaines des questions importantes, notamment les sanctions et les engagements nucléaires que l'Iran doit prendre. Mais on est dans la bonne direction de travail en ce qui concerne ce qui se fait à Vienne.
En conférence de presse ce lundi, le président élu iranien Ibrahim Raisi dit vouloir un résultat dans les négociations, mais pas à n'importe quel prix. Les négociateurs ont ajourné dimanche la dernière série de pourparlers pour consulter leurs gouvernements respectifs. Aucune date n'a été retenue pour un retour à la table des négociations. L'Iran continue de dire que son programme nucléaire a des objectifs pacifiques.
Participez à notre magazine interactif à votre avis du lundi au vendredi à partir de 18h CU sur VOA Afrique. Donnez votre opinion sur tous les sujets, sans tabou, politique, société, culture et bien plus encore. Vous pouvez même suggérer des thèmes sur notre page Facebook. À votre avis, l'occasion de vous exprimer librement du lundi au vendredi à partir de 18h CU sur VOA Afrique et VOA Afrique. À votre avis, c'est votre rendez-vous interactif au quotidien sur VOA Afrique.
Nous sommes le 21 juin, journée consacrée à la fête de la musique. Au Burkina Faso, tout un festival est créé autour de cette journée, intitulé Festival de la musique. La fête est à sa 16e édition cette année et comprend tout un lot d'activités. Yacouba Ouédraogo a joint à Ouagadougou, son promoteur Alexis Alognon.
Au Burkina Faso, spécialement autour du 21, nous avons créé le festival Fête de la Musique. Bon, certainement, vous allez vous poser la question à savoir pourquoi créer un festival autour du 21 juin. Déjà, célébrer la musique, c'est bien, mais il faut célébrer aussi la musique de la plus belle des manières. Alors, l'occasion nous a démontré de par le passé qu'en une seule journée, nous n'avons pas pu faire profiter tous les artistes musiciens du Burkina Faso. Donc, ce qui a fait que nous avons pensé, nous avons réfléchi et puis on se dit, pourquoi ne pas les aller sur plusieurs jours. Donc, ce qui nous a amené à créer ce festival-là. Alors, cette année, par exemple, elle est célébrée sur 3 jours, 19, 20, 21 jours. C'est des plateaux artistiques que nous organisons, que nous proposons à tous les artistes musiciens afin qu'ils puissent s'exprimer véritablement. Donc, pour ce qui est du 21 juin cette année, précisément aujourd'hui, ce matin, nous avons organisé une grande parade dans la ville de Ouagadougou, déjà, pour annoncer les couleurs du plateau de ce soir, pour annoncer les couleurs de la fête d'aujourd'hui. Nous avons organiser une grande parade à travers certaines artères de la ville de Ouagadougou. Ce soir, c'est le clou. À partir de 20h déjà, vous aurez sur le même plateau un groupe qu'on appelle Wendabo, Kayawoto, Amiti Meria, Danchar, Zedmo, Patrick Abré, Maï Lengani et un groupe invité spécial de la Côte d'Ivoire qu'on appelle Magic Diesel. Voilà comment cela sera célébré le 21 juin aujourd'hui au Burkina Faso.
Voilà, c'était Alexis Alognon, promoteur du festival Fête de la Musique de Ouagadougou. Bonne fête de la musique à tous. Le Monde aujourd'hui, c'est la fin de cette édition. Merci de l'avoir suivi. Un grand merci à toute la rédaction et à notre équipe de production. Jean-Roger Billon à ce micro. Rendez-vous sur notre site internet voafrique.com et nos pages Facebook, YouTube, Twitter et Instagram pour un suivi de l'actualité 24 heures sur 24. Je vous souhaite une excellente soirée à l'écoute de nos programmes. Oh.